Commentaire, Spinoza selon le cœur, première partie. Une émission proposée par Raphaël Antonin.
L'expérience m'ayant appris à reconnaître que tous les événements ordinaires de la vie commune sont choses vaines et futiles, j'ai pris la résolution de rechercher s'il existe un bien véritable qui puisse remplir seul l'âme tout entière, un bien qui donne à l'âme, quand elle le trouve et le possède, l'éternel et suprême bonheur.
Contrairement aux apparences, l'hédonisme est une philosophie de la mort, un déguisement du divertissement. L'hédoniste a beau savoir qu'il va mourir, lui non plus n'y croit pas. L'air qu'il se donne de regarder la mort en face et de se dire « carpe diem » puisque tout ça ne dure pas, c'est précisément la façon qu'il a trouvé d'oublier qu'il va mourir, de penser à autre chose, d'avoir la tête ailleurs. L'hédoniste n'est pas plus lucide que l'homme d'église. Son plaisir, c'est l'envers du néant. Sa drogue à lui, c'est la réalité toute crue. Or, ça n'est pas jouir de la vie que d'en jouir parce qu'elle va s'achever. Faute de mieux, l'hédonisme dévore ce qui ne dure pas, refuse, quoi qu'il en dise, à la vie le droit de mourir et remplace l'espérance par le plaisir comme un anxiolytique à peine plus efficace. L'homme qui s'envoie en l'air n'a pas plus les pieds sur terre que l'homme qui s'agenouille. Le gagne petit qui, sachant la vie brève, se donne pour seul programme d'en jouir, n'est pas plus lucide que le spéculateur qui, espérant le paradis, se prive de jouir avant de mourir. L'hédoniste est un héron qui se prend pour un héros et l'homme d'église un chameau qui se prend pour un ange, mais l'un et l'autre ont en commun de voir la bouteille à moitié vide. L'un et l'autre remplissent un tonneau percé. Pour fuir la mort, le chrétien enjambe la vie et l'hédoniste, lui, hâte le pas, ce qui revient au même. Qu'on jouisse ou qu'on espère, qu'on se prive ou qu'on profite, qu'on soit cigale ou fourmi, priape ou prière, église ou prosaque, au final ça ne change rien, quoi qu'on fasse, nous sommes faits. Pour tout dire, le problème est mal posé. Pourquoi ? Parce que, comme son nom l'indique, le néant n'existe pas. Parce que la mort n'est pas le contraire de la vie, mais tout au plus le contraire de la naissance. Et la vie n'est pas un tonneau percé, mais un monde sans double, un ensemble infini, éternel et mouvant, qui ne nous ressemble pas puisqu'on en fait partie. La vie est pleine. Elle est tout ce qui est. Il n'y a en elle ni vide à remplir, ni sens à trouver, ni mort à redouter. Contentez-vous de vivre, enseigne Spinoza, et vous vivrez content. Qui vit selon le manque, ignore ce qu'il a sous la main. L'éthique de Spinoza, ce livre inaccessible et donc indépassable, apprend à supporter l'existence en se passant de sédatifs et répond à la seule question qui vaille, à savoir quel but, à l'intérieur de la vie, est assez consistant pour survivre au fait d'être atteint. En d'autres termes, au lieu de se demander, une fois de plus, pourquoi vivre alors qu'on va mourir, Spinoza montre à son lecteur comment vivre. Comment vivre sans y penser, comment ne pas haïr, mais comprendre. Comment habiter l'existence sans être habité par le regret d'en partir un jour. Par exemple, la quête de ce que Spinoza appelle le souverain bien, ou la béatitude, ne suppose pas qu'on renonce aux biens imaginaires, au plaisir, à la gloire, à la foi. On peut accéder à la béatitude, on peut atteindre la sagesse même quand on a un plan de carrière, même quand on croit que la terre est plate, même quand on recherche le plaisir et même quand on est chrétien. Les demi-joies, les faux réconforts, Spinoza les accepte. Spinoza dit oui. Après tout, ce qui nous fait du bien ne peut pas être tout à fait mauvais. On peut désirer le meilleur sans renoncer au médiocre. On peut aimer la vérité tout en fréquentant l'imaginaire, on peut jouir de tout sans être un porc et on peut croire en Dieu sans être un âne. L'éthique est un livre à qui rien de ce qui existe n'est étranger. L'éthique peut tout entendre. L'éthique accepte tout. C'est un livre qui fait la paix. C'est avec Robert Misrahi, grand lecteur de Spinoza devant l'Éternel, que je vous propose de passer les trois émissions qui viennent et de vous immerger dans l'éthique, ce chef-d'œuvre anti-absolu, et dans la philosophie de Spinoza.
Est-il possible que je parvienne à diriger ma vie suivant une nouvelle règle, sans rien changer toutefois à l'ordre actuel de ma conduite, ni m'écarter des habitudes communes ? La volupté, surtout, enchaîne l'âme avec tant de puissance qu'elle s'y repose comme en un bien véritable. Les honneurs et les richesses n'occupent pas non plus faiblement une âme. La réputation occupe l'âme avec plus de force encore. Surtout quand on recherche toutes ces choses pour elles-mêmes, en s'imaginant qu'elles sont le souverain bien. Au contraire, l'amour, qui a pour objet quelque chose d'éternel et d'infini, nourrit notre âme d'une joie pure et sans aucun mélange de tristesse. Et c'est vers ce bien si digne d'envie que doivent tendre tous nos efforts. Mais bien que j'eusse une idée claire de tout ce que je viens de dire, je ne pouvais cependant bannir complètement de mon cœur l'amour de l'or, des plaisirs et de la gloire.
Alors on va plonger dans l'éthique.
Allons-y.
Avec joie.
Donc. Oui, oui, avec joie, absolument.
Alors, d'abord, le premier des paradoxes, la chose la plus frappante pour l'éthique, et c'est, il faut le dire à ceux qui ne l'ont pas lu et qui voudraient s'y mettre, d'abord les inviter à ne pas être découragés par la forme de l'éthique. Parce qu'il faut quand même rappeler que dans l'éthique, bon, il y a 5 parties, 75 définitions, 17 axiomes, j'ai compté 259 propositions, mais je peux me tromper. Sans compter les démonstrations, scolies, appendices, préfaces, qui en forment d'ailleurs souvent les passages les plus accessibles. Mais ce qui est très frappant avec l'éthique, c'est que c'est un livre organisé more geometrico, c'est-à-dire selon la méthode géométrique, et on pourrait se dire qu'un livre ainsi conçu ne s'adresse qu'à des esprits, j'allais dire rigides, mais c'est péjoratif et c'est pas le terme, ne s'adresse qu'à des esprits, à la limite, mathématiques. Or, ce qui est frappant quand on lit l'éthique, et l'expérience qu'on peut faire quand on lit l'éthique, et qui est une expérience à laquelle on peut inviter quiconque, c'est que finalement l'éthique fait vaciller la sensibilité, froisse le cœur, dirait Stendhal, au lieu de s'adresser strictement ou stricto sensu à la raison. De façon générale, comment est-ce que vous expliquez cette espèce de miracle de lecture qui veut que l'éthique, sous une forme extraordinairement géométrique et impeccablement construite, parvienne à s'adresser au cœur plus qu'à la raison?
Oui, j'aime bien ce que vous dites, c'est-à-dire que je suis en pleine sympathie avec cette lecture que vous faites, avec cette modalité de lecture que vous faites de Spinoza.
Robert Misraille.
Vous avez eu raison de mettre en évidence le fait suivant, c'est que en lisant l'éthique, on est dans l'exaltation, on est dans la sensibilité, on est porté par quelque chose. On comprend très vite que Spinoza va nous porter vers un lieu sublime. On sent très vite que Spinoza a une intentionnalité, il a une intention, il a un mouvement, un but, et ce but consiste à répondre à la question essentielle de l'existence, au fond. Quel est le meilleur bien, quel est le vrai bien pour l'existence, ou si vous voulez, mais pourquoi vivre? Pourquoi vivre bien, et pourquoi vivre heureux? Alors, ce qui est paradoxal, vous avez raison de le souligner, c'est que on ne rencontre pas cette définition, cette finalité, l'expression de ce que on pourrait appeler le grand désir qui parcourt l'éthique. On ne le rencontre pas comme ça de prime abord dans les premières pages, dans l'éthique 1, où on a une ontologie.
Mais il y a tout un discours sur l'être, sur la nature de Dieu, etc., etc. Ça, c'est l'objet de la première partie de l'éthique.
Voilà. Alors, nous, lecteurs habitués, nous pouvons nous référer au début du traité de la réforme de l'entendement que vous avez évoqué tout à l'heure. Et avec cette première page du traité, nous savons à quoi correspond l'éthique. Mais le lecteur qui aborde l'éthique directement ne le sait peut-être pas tout de suite. Alors, le premier effet est peut-être dû à quelque chose d'autre, et qui est le style. Le style, c'est la formulation de ces théorèmes, par exemple. Ces théorèmes sont très denses, très brefs, très bien structurés. Le latin y est très rigoureux. Une traduction française, telle que celle que j'ai essayée, tente de rendre, en effet, et la rigueur, et l'espèce de poésie intellectuelle d'une formule existentielle bien structurée. On est devant un grand texte littéraire qui est en même temps un grand texte philosophique. On est porté par un souffle, qui est le souffle du désir humain bien exprimé par Spinoza.
La métamorphose de la mathématique en existence.
Presque. Exactement, très exactement, absolument.
paraissez pourtant vouloir user de la raison et vous me demandez comment je sais que ma philosophie est la meilleure parmi toutes celles qui furent jamais enseignées, qui le sont ou le seront. Je serais, et de loin, beaucoup mieux justifié à vous le demander à mon tour. Je ne prétends pas avoir la meilleure des philosophies, mais je sais que je comprends la vraie philosophie. Si vous me demandez comment je puis savoir cela, je dirais que c'est de la même manière que vous savez que les trois angles d'un triangle sont égaux à deux droits. Et personne ne dira que cela ne suffit pas s'il a le cerveau sain et s'il ne rêve pas d'esprits impurs nous inspirant des idées fausses semblables à des idées vraies. Le vrai, en effet, est la marque et du vrai et du faux.
Et on ne peut pas ne pas songer à ce que disent à bon droit aussi bien Hegel que Bergson. Pour Hegel, tout philosophe commence par être spinoziste, et pour Bergson, tout philosophe a deux philosophies, la sienne et celle de Spinoza. Et je crois qu'ils ont raison, ils ont vu là que le spinozisme est l'un des modèles exceptionnels de la philosophie véritable. Mais cette philosophie véritable est une philosophie qui concerne notre existence, notre vie, notre manière de vivre. Et plus on avance dans l'éthique, plus on s'aperçoit qu'il y a comme un resserrement du champ de l'attention. Il était d'abord très vaste, ce champ, c'était l'être même de la nature, puis peu à peu il se rétrécit, on s'aperçoit qu'il va s'agir maintenant de l'esprit humain, pas de l'âme, il n'y a pas le mot âme chez Spinoza, il y a le mot esprit toujours.
Animus.
Une fois, une ou deux fois, la plupart du temps il dit
mens.
L'esprit, mens, voilà. Il dit mens et non pas anima ou animus, dans la plupart des cas. Sauf dans l'expression fluctuatio animi, mais c'est une expression toute faite. Alors peu à peu, on s'aperçoit qu'on va être en présence de l'individu humain, puis on s'aperçoit que cet individu humain, voici qu'il est désir, et on nous parle du désir, dans une grande philosophie qui se présente comme, en effet, un texte géométrique, didactique, qu'on a cru dogmatique et sûr de lui, voici que il met en évidence tout simplement ce qui avait été peu remarqué par les philosophes antérieurs, à savoir le désir, le feu du désir au cœur de l'individu humain. Et ce désir est le désir de la félicité. Dès qu'on rencontre une fois ce mot, on ne peut plus lâcher ce texte. C'est ainsi, par exemple, que il y a
ce qui veut dire qu'il faut quand même s'accrocher avant de le rencontrer, puisqu'on ne le croise pas avant la troisième partie.
Oui,
quand
oui,
même.
Oui, absolument.
Mais dans la troisième partie, quand même, là encore, on retrouve le même problème, qui est que dans la préface de la troisième partie de l'éthique, puisque chaque partie est souvent précédée d'une préface, d'une introduction, il dit « Je traiterai des passions comme s'il était question de lignes, de plans et de corps. » Le lecteur bergsonien, ou pascalien, ou existentialiste, celui qui est sensible au cœur plus qu'à la raison, trouvera ça presque insupportable, limite scientiste, n'aura pas peut-être pas envie d'aller plus loin. Et là encore, dans la troisième partie, malgré cette architecture rigide, on plane.
Quand on lit la plupart des philosophes qui ont traité des passions et de la conduite des hommes, on dirait qu'il n'a pas été question pour eux de choses naturelles, réglées par les lois générales de l'univers, mais de choses placées hors du domaine de la nature. Ils ont l'air de considérer l'homme dans la nature comme un empire dans un autre empire. À les en croire, l'homme trouble l'ordre de l'univers bien plus qu'il n'en fait partie. Il a sur ses actions un pouvoir absolu, et ses déterminations ne relèvent que de lui-même. S'il s'agit d'expliquer l'impuissance et l'inconstance de l'homme, il n'en trouve point la cause dans la puissance de la nature universelle, mais dans je ne sais quel vice de la nature humaine. De là, ses plaintes sur notre condition, ses moqueries, ses mépris, et plus souvent encore, cette haine contre les hommes.
De là vient aussi que le plus habile ou le plus éloquent à confondre l'impuissance de l'âme humaine passe pour un homme divin.
Lorsqu'il a dit qu'il va traiter des passions comme s'il s'agissait d'objets géométriques, il a fait cette affirmation pour s'opposer, c'est toujours dans la même préface de Éthique 3, Il a fait cette affirmation pour s'opposer à l'attitude traditionnelle des moralistes qui considèrent que la morale consiste à combattre les passions, à les déprécier, à montrer qu'elles sont, à laisser croire qu'elles sont des vices de la nature, qu'elles sont des malformations, des déviations ou des perversions, dirions-nous aujourd'hui, de la nature.
Spinoza, présenter l'humain comme en état de guerre civile avec lui-même, finalement, le corps contre la raison.
Voilà, et Spinoza explique ici, allons lentement, attendez, la morale, ça ne peut pas consister à critiquer les passions comme s'il y avait des vices dans la nature. La nature est une, il faut d'abord savoir ce qu'elle est. On va d'abord s'interroger sur ce que sont les passions. La vérité, c'est que en présentant les passions comme un objet d'étude, il n'en fait pas d'emblée une critique péjorative. Il replace les passions au niveau d'un objet digne d'être connu, qui appelle notre connaissance et dont nous allons pouvoir acquérir la maîtrise, mais par notre connaissance et non pas par un moralisme a priori.
Rien n'arrive, selon moi, dans l'univers qu'on puisse attribuer à un vice de la nature. Car la nature est toujours la même. Partout, elle est une. Partout, elle a même vertu et même puissance.
Il suit de là que les passions, telles que la haine, la colère, l'envie et autres de cette espèce, considérées en elles-mêmes, résultent de la nature des choses tout aussi nécessairement que les autres passions. Et par conséquent, elles ont des causes déterminées qui servent à les expliquer. Elles ont des propriétés déterminées tout aussi dignes d'être connues que les propriétés de telle ou telle autre chose dont la connaissance a le privilège exclusif de nous charmer.
Je vais donc traiter de la nature des passions, de leur force, de la puissance dont l'âme dispose à leur égard, suivant la même méthode que j'ai précédemment appliquée à la connaissance de Dieu et de l'âme. Et j'analyserai les actions et les appétits des hommes comme s'il était question de lignes, de plans et de solides.
De même qu'il réhabilite les passions comme objet de connaissance, comme source de notre malheur, d'ailleurs, il le dira plus loin, de même, il va réhabiliter en réalité, et c'est presque toute l'œuvre profonde de Éthique 3, il va réhabiliter le désir. Parce que les passions ne sont qu'une partie du désir. Lorsque le désir devient passif, il devient une passion. Mais ce n'est pas le désir qui est en cause. C'est sa, si
son
vous
dévoiement.
Voulez, son dévoiement, absolument. Sa fatigue, sa chute dans l'imaginaire, son renoncement à lui-même.
Pour donner un exemple, parce que il faut être précis dans ces cas-là. Un homme se donne, par exemple, au début de la vie, un plan de carrière. Un but. Un but. Alors,
très bon exemple.
Son existence est ordonnée par le but qu'il se donne, elle est structurée par le but qu'il se donne, et d'une certaine façon, il suspend son bonheur ou sa félicité à l'obtention de ce but. L'arriviste, voyez. Alors, le problème de l'arriviste, c'est pas que c'est un arriviste. Le problème de l'arriviste, c'est qu'il risquerait d'arriver. Et le jour où l'arriviste arrive, qu'est-ce qu'il a, l'arriviste? Plus rien.
Et en réalité, il n'arrive jamais.
Et en réalité, il n'arrive jamais. Le blues du businessman, qui aurait voulu être un artiste, pourtant il dit « j'ai réussi et j'en suis fier hein ». Le blues du businessman, la belle chanson de Michel Berger, dit quelque chose d'essentiel, et dont finalement tout le monde est familier, qui est que si l'on ordonne notre vie en fonction d'un but qu'on se donne, le but qu'on se donne n'est pas de nature à nous satisfaire si par malheur nous y parvenons. Est-ce à dire qu'il faut repenser le désir de telle sorte qu'il se passe d'un but?
Soyons très prudents ici. Vous avez raison de mettre en évidence le lien entre le désir et le but. Mais ce qui est en cause ici, ce n'est pas le fait de poursuivre un but. Il est normal de poursuivre un but dans le spinozisme, dans l'éthique et je crois dans la réalité. Il est normal de poursuivre un but à la condition que ce but soit réalisable, d'une part, et à la deuxième condition que la réalisation de ce but corresponde exactement à l'essence du désir, à notre désir, à notre personnalité.
C'est-à-dire que ce but ne soit pas un paravent, finalement.
Voilà. Il ne faut pas que le but soit un paravent, il ne faut pas qu'il soit imaginaire, c'est-à-dire il faut qu'il soit un vrai but, mais notre vrai but, Voilà pourquoi il dira que le premier pas de l'éthique, c'est la recherche de l'utile propre.
On va y venir, mais c'est-à-dire un vrai
but. Mais pour le moment, parlons du but, vous avez raison.
C'est-à-dire un vrai but, c'est un but suffisamment consistant pour demeurer une fois qu'on l'obtient.
Naturellement.
L'effort pour faire certaines choses, ou pour ne point les faire, par le seul motif de plaire aux hommes, se nomme ambition. Surtout quand on s'efforce de plaire aux vulgaires avec un tel excès d'ardeur qu'on fait certaines choses ou qu'on s'en abstient à son détriment ou à celui d'autrui. Autrement, on lui donne ordinairement le nom d'humanité. Nous devons aussi comprendre que cette même propriété de la nature humaine qui fait les hommes miséricordieux met en leur âme l'envie et l'ambition.
Que l'on voit que tout homme désire naturellement que les autres vivent à son gré. Et comme tous le désirent également, ils se font également obstacles. Et comme aussi tous veulent être loués ou aimés de tous, ils se prennent mutuellement en haine. Au contraire, l'amour qui a pour objet quelque chose d'éternel et d'infini nourrit notre âme d'une joie pure et sans aucun mélange de tristesse. Et c'est vers ce bien, si digne d'envie, que doivent tendre tous nos efforts.
Spinoza ne pense pas le moins du monde comme le bouddhisme ou comme Schopenhauer ou comme certaines religiosités ou certaines théologies que le désir est quelque chose d'impossible à réaliser. Même nos contemporains, même nos psychanalystes contemporains, le désir c'est l'impossible pour nos contemporains. La doctrine de Spinoza est exactement le contraire. Lorsque nous poursuivons l'impossible, c'est que nous sommes dans la passion et dans l'imaginaire. Nous devons au contraire, si nous voulons gagner notre félicité, notre liberté et notre salut, très exactement il le dit, si nous voulons gagner tout cela, nous devons faire que nos buts soient réels, réellement accessibles et correspondent réellement à notre être, à notre essence profonde.
C'est la chanson de Jacques Brel, hein, La Quête, quand il parle de l'inaccessible étoile.
Voilà, nous ne devons pas être découragés par cela, par ces visions pessimistes, par ces visions tragiques, par ces visions, pardonnez-moi l'expression, je me trompe peut-être, mais je le dis en toute amitié, par ces visions christianisantes du désir impossible.
Théologique, hein, tout simplement.
Théologique.
Il se donne un but au-delà de la vie.
Voilà. Pour Spinoza, le but doit être atteint dans la vie. Alors, c'est pas simple. C'est pour ça qu'il y a nécessité d'une philosophie, nécessité d'une éthique, nécessité d'une reconstruction du désir et de la personnalité. On sait bien que c'est pas simple. On sait bien que nous ne sommes pas seuls. Il y a les autres, il y a la société. Il va falloir réfléchir à tout cela. Mais le but constant chez Spinoza est immanent. Le but doit être trouvé ici-bas. Ce sera d'une part la voie parfaite, voie assez parfaite pour mériter à un certain moment le nom de béatitude, la béatitude n'excluant pas les autres voies parfaites, bien sûr. Ce but doit être atteint, réalisé, et tout cela, naturellement, dans l'immanence.
Alors, mais il faut bien préciser que par immanence, vous entendez ici en fait le contraire de ce qu'on appelle la transcendance.
Oui.
C'est-à-dire le contraire d'une doctrine qui poserait au-delà de la vie un but, ou bien au-delà de l'être, un être supérieur, ce qui en soi d'ailleurs est un paradoxe. Si Dieu est, comment peut-il être au-delà de ce qui est ? Donc si Dieu est, il n'est pas au-delà, donc la meilleure preuve de l'existence de Dieu est également ce qui le fait tomber du ciel. Donc c'est tout le sens d'ailleurs de la démonstration que fait Spinoza de l'existence de Dieu. Dieu est, selon Spinoza, ce dont nous pouvons avoir la connaissance la plus claire, non pas parce qu'il est au-delà comme un absolu, que par défaut nous aurions en tête, à la façon de Descartes, puisque nous-mêmes sommes imparfaits, donc on aurait l'idée d'une perfection, bon. Non, Dieu n'est pas ça. Si Dieu fait l'objet de la connaissance la plus claire, c'est parce que Dieu c'est tout simplement la nature dans la mesure où il est.
Absolument.
S'il est, il ne peut pas être au-delà.
Absolument.
S'il est au-delà, il n'est pas.
Et s'il est l'infini, il n'y a rien en dehors de lui. Il est absurde de poser un Dieu en dehors du monde, en affirmant en même temps que Dieu est l'infini. Si Dieu est l'infini, il est le monde.
Si le monde est infini, alors par définition, il est sans au-delà.
il est sans au-delà.
On ne peut pas être infini et avoir un au-delà. S'il y a un au-delà, c'est qu'il y a une frontière.
Absolument. Il n'y a pas d'au-delà.
Mais vous disiez tout à l'heure que la question de l'éthique, c'était pourquoi vivre. Est-ce que finalement, dans la mesure où avec Spinoza, on peut faire la critique d'un rapport théologique à l'existence, finalement, qui se donne un but au-delà de la vie, comme un aiguillon qui viendrait nous tirer. Finalement, si Spinoza pense le désir non pas comme quelque chose qui nous tire, mais comme une force ou une puissance qui nous pousse, et quitte à se donner d'ailleurs des objets provisoires qui l'enjambent, est-ce que la question du pourquoi demeure encore pertinente? Est-ce que finalement Spinoza ne remplace pas la question du pourquoi vivre, qui sous-entend la recherche d'un sens, qui va chercher ce sens peut-être au-delà de la vie, ou alors dans la vie à la façon d'un plan de carrière? Est-ce que la question pourquoi ne mériterait pas ici d'être remplacée par la question tout simplement comment vivre?
Oui. Oui, vous avez raison. En répondant à la question pourquoi vivre et en répondant par le comment, on répond en même temps au pourquoi.
Je comprends pas.
Le pourquoi est le ce en vue de quoi. Et c'est le ce en vue de quoi nous vivons qui nous donnera un sens. Mais le ce en vue de quoi qui nous donnera un sens est la félicité. C'est-à-dire que je crois que c'est la félicité qui permet de répondre simultanément à la question du pourquoi et à la question du comment. Pourquoi vivre? Mais pour être heureux. Pas du tout pour faire l'éloge d'un être transcendant qui serait un dieu individué. Pourquoi vivre? Pour être heureux. Une fois qu'on accède à la béatitude, comme il le dit à la proposition 36 de Éthique 5.
On est tout à la fin, là.
On est tout à la fin, on va y arriver tout à l'heure.
On y viendra, oui.
Une fois qu'on est dans la béatitude, on accède à la félicité. On est dans la félicité, par conséquent. Mais la félicité devient à la fois une justification et un contenu. La félicité est notre raison de vivre. Quel est notre sens? C'est d'être heureux. Comment vivre? En étant heureux, c'est-à-dire qu'en poursuivant la meilleure manière de vivre, en poursuivant le comment, nous répondons au pourquoi.
La béatitude n'est pas le prix de la vertu, c'est la vertu elle-même. Et ce n'est point parce que nous contenons nos mauvaises passions que nous la possédons, c'est parce que nous la possédons que nous sommes capables de contenir nos mauvaises passions.
Une toute petite parenthèse, non spinoziste, mais spinoziste quand même. Je pense que la seule justification, j'écris partout, la seule justification de l'existence, la seule valeur suprême, ne peut être que la jouissance de l'existence. Car toute autre justification est une aliénation. Il faut trouver une justification qui n'appelle plus de justification. Si nous disons nous voulons combattre pour la justice, nous devons dire pourquoi combattre pour la justice. Il y a de bonnes raisons et nous avons raison de combattre pour la justice. Mais parce qu'elles répondent à une autre question qui, elle, va se poser et se répondre en même temps et qui est l'accès à la joie. Pourquoi combattre pour la justice? Parce que simplement tout individu souhaite la joie et que l'injustice est la privation de la joie. Je dirais que la recherche de la joie est la seule justification de l'existence et elle est en même temps son contenu suprême, elle est en même temps son but ultime. Elle serait la seule justification d'une existence malheureuse, cette référence à la joie, et ensuite l'ultime contenu de cette existence sortie du malheur. Je viens d'exprimer, si vous voulez, dans mes termes ou en termes modernes, l'idée même spinoziste. Spinoza explique cela, finalement, lorsqu'il parle en même temps, il dit ceci. Voilà ce que l'on voulait dire lorsqu'on évoquait les termes de salut, de liberté et de béatitude. Le salut, au fond, dans toutes les traditions théologiques, c'est la justification de l'existence, c'est-à-dire la réponse à la question « pourquoi vivre ?». Eh bien, le « pourquoi vivre » consiste à accéder à la béatitude. Or, la béatitude, comme joie parfaite, est simplement l'expression et la réalisation et l'accomplissement à la fois le plus intense, le plus dynamique et pourtant le plus calme et le plus serein du désir humain.
C'est alléchant, mais ça part mal dans l'éthique. Parce que, dans l'éthique même, parce que Spinoza nous conduit à la béatitude dont vous parlez, du moins le prétend-il. Parce qu'il faut aussi, par exemple, il y a de grands professeurs comme Ferdinand Alquier, qui fait de longs cours sur Spinoza, qui a enseigné Spinoza pendant des années, tout en faisant commencer chacun de ses cours par, enfin, début de son séminaire, il commençait toujours en disant, écoutez, moi, Spinoza, je l'explique, mais je n'y comprends rien. Je l'explique, mais je ne comprends pas, c'est-à-dire que je peux voir comment ça fonctionne, mais je ne l'éprouve pas. Et toute l'entreprise, évidemment, de lecture de l'éthique consiste également à éprouver ce qu'on peut suivre avec la raison. Mais au début de l'éthique, dans la première partie de l'éthique, Spinoza construit un monde, décrit un monde, qui est un monde sans morale, donc sans bien ni mal. Il remplace le bien et le mal par le bon et le mauvais, comme il remplace d'ailleurs la beauté et la laideur par le plaisir ou le désagrément. C'est un monde sans finalité, donc c'est un monde qui ne se donne pas à lui-même de destination. On pourrait parler d'un monde silencieux ou d'un monde obéissant à une nécessité aveugle, parce qu'il n'y a pas de finalité, mais il y a quand même un enchaînement de causes et d'effets dans lequel nous sommes irrémédiablement pris. C'est un monde dont l'homme n'est plus le centre, et ça c'est probablement le plus difficile à entendre, pour un lecteur normalement constitué, égocentré si vous voulez, le plus difficile à entendre c'est peut-être que interpréter le monde selon ses propres catégories est une illusion de l'imagination dont il faut se défaire. Donc ce monde dans lequel il démystifie, déconstruit, détruit les illusions qui nous agitent, et où on ne trouve rien qui nous mente et nous rassure, c'est le monde à partir duquel, où évidemment l'espoir comme dirait Cioran, une vertu d'esclave presque, c'est le monde à partir duquel il prétend nous conduire à la joie.
Supposez qu'une pierre tombe du toit d'une maison sur la tête d'un homme et lui donne la mort. Ils diront que cette pierre est tombée tout exprès pour tuer cet homme. Comment, en effet, si Dieu ne l'avait fait tomber à cette fin, tant de circonstances y auraient-elles concouru? Vous répondrez peut-être que l'événement en question tient à ces deux causes, que le vent a soufflé et qu'un homme a passé par là. Mais ils vous presseront aussitôt de questions. Pourquoi le vent a-t-il soufflé à ce moment? Pourquoi un homme a-t-il passé par là précisément à ce même moment? Répondrez-vous encore que le vent a soufflé parce que la veille, la mer avait commencé de s'agiter, quoique le temps fût encore calme, et que l'homme a passé par là parce qu'il se rendait à l'invitation d'un ami. Ils vous presseront encore d'autres questions. Mais pourquoi la mer était-elle agitée? Pourquoi cet homme a-t-il été invité à cette même époque? Et ainsi, ils ne cesseront de vous demander la cause de la cause, jusqu'à ce que vous recouriez à la volonté de Dieu, c'est-à-dire à l'asile de l'ignorance.
Oui, vous décrivez là le monde spinoziste comme Alquier, un peu comme Alquier. Vous avez eu raison de l'évoquer. Alquier qui avait raison de dire qu'il ne comprenait rien à Spinoza, c'est sûr. Je l'ai entendu, j'ai suivi les cours d'Alquier. Il a réussi à opérer une censure sur ma thèse sur Spinoza. Il a réussi, avant que je ne soutienne cette thèse, à me faire enlever une importante partie de ma thèse qui soutenait une espèce d'interprétation athée de Spinoza.
Il avait peut-être peur de comprendre.
Il avait peur de comprendre à ce moment-là, si je lui expliquais que, lorsque je lui expliquais que Spinoza est un athée. Donc, il a eu peur, il n'a pas compris, il décrirait le monde de cette façon, mais tout cela est non-spinoziste. Tout cela est du, essayons de pas toujours être trop sérieux, du christianisme surréaliste, de la part d'Alquier, je crois. La vérité, c'est que nous n'avons pas, maintenant je me resitue dans l'éthique, dont je partage vraiment l'inspiration totalement immanentiste et athée. Nous n'avons pas à nous désoler du fait que la nature infinie n'est pas de finalité, puisque la finalité est une idée humaine. Nous n'avons pas à nous désoler de ce fait, nous n'avons pas à en conclure non plus que, puisque la nature n'est pas un paradis, elle est un enfer. Non, la nature n'est que ce qu'elle est. Et qu'est-elle? Eh bien, et ici, petite préface, ça s'appelle pas préface, mais il y a trois lignes qui ont le rôle d'une préface, qui précède la partie 2, et qui dit ceci, qui est extraordinaire, que personne ne souligne. Je viens d'expliquer ce que c'est que la nature infinie, je vais maintenant développer ses conséquences. Mais, dit-il, pas toutes les conséquences, sous-entendu c'est hors de portée, pas toutes les conséquences, seulement celles qui concernent ma béatitude. C'est-à-dire que l'important a été de placer le décor c'est une nature qu'on va appeler Dieu parce qu'elle est infinie, Dieu étant l'esprit, la matière et tout ce qu'on ne peut pas imaginer. On a placé le décor et maintenant on est en présence du vrai problème qui nous concerne, c'est l'homme. L'homme et sa béatitude, le mot béatitude est déjà cité et prononcé au début de Éthique 2. On va s'occuper de sa béatitude. Alors, c'est une des raisons, on n'y a pas songé tout à l'heure, mais c'est une des raisons qui fait que le lecteur est attaché à poursuivre la lecture. C'est que très vite après la première partie, Spinoza lui dit « Mais attention, tout ça n'est pas, c'est pas sa propre fin. La propre fin et la propre utilité de tout ce qu'on vient de dire, ben c'est ce qui va suivre. Car ce qui précède et ce qui va suivre doivent servir à la construction de la béatitude. »
Oui, mais quand vous dites que la nature n'est pas de finalité, n'est pas un drame, que le monde ne soit pas un paradis, n'est pas un drame non plus, et que l'espoir soit finalement un effet de l'imagination, n'est pas un drame. Bien sûr, mais le drame, la béance, elle se noue entre les hommes qui... jusque-là, et même au-delà de lui d'ailleurs, tout le monde n'est pas spinoziste et tout le monde n'a pas lu l'éthique. Le drame se noue entre des hommes qui, d'une façon ou d'une autre, continuent de penser que le monde s'ordonne selon un but, ou veulent espérer, veulent se donner un but, sans quoi l'existence leur semblerait dénuée de sens. Sans raison de vivre, nous n'avons que des raisons de mourir, dirait-il. Donc, le drame, c'est le décalage, finalement, entre les attentes humaines, peut-être trop humaines, dirait Nietzsche, et la nature qui, en elle-même, est parfaitement indifférente au sens que nous voulons lui donner. Il y a, dans la lecture de la première partie de l'éthique, alors là, pour le coup, c'est une expérience que je décris, enfin, c'est une expérience vécue, il y a quelque chose de désespérant, non pas parce que le propos de Spinoza est désespérant, mais parce que ce qui est désespérant, c'est de découvrir à quel point on vit dans l'illusion et à quel point le monde se moque des illusions que nous pouvons former à son sujet. De la même façon que le monde se moque des croyances qu'on peut avoir à son sujet, ou la nature se moque du sentiment que finalement Dieu règne, etc. Vous voyez ?
Oui, mais un tel sentiment... tout à fait important, tout à fait noble et qui s'enracine dans les inquiétudes les plus légitimes de l'être humain, mais naturellement. Un tel sentiment est tout de même redevable à une culture théologique qui pensait que, malgré tout, le sens de l'homme ne peut lui venir que d'ailleurs. Spinoza établit une rupture dans l'histoire de la pensée, une véritable rupture que n'établit pas, par exemple, Kant, dont on croit qu'il établit une rupture. Kant ne le fait pas, puisqu'il y a tout de même une place pour le spirituel, l'autre monde et l'objet X. Spinoza établit une rupture parce que le spinozisme consiste à dire, voilà, nous étudions la nature, et de la nature, nous ne pouvons tirer que une connaissance supplémentaire de notre propre nature. Si j'étudie la nature, c'est pour montrer que nous sommes nature et que c'est nous qui sommes l'objet principal de notre préoccupation. Nous ne devons et nous pouvons ne compter que sur nous-mêmes.
Ce qui veut dire que dans une structure théologique, l'homme interprète le monde à son image, confond le monde avec lui, alors que la valeur ajoutée du spinozisme, c'est de dire que le monde ne peut pas, ne saurait être confondu avec nous-mêmes, dans la mesure où nous faisons partie du monde.
Voilà, absolument. Nous faisons partie du monde, et comme c'est nous qui réfléchissons, et comme c'est nous qui poursuivons quelque chose, une manière de vivre qui soit satisfaisante, nous devons mettre au centre de notre réflexion, justement, cet individu humain qui cherche... à construire sa vie. Autrement dit, on s'aperçoit combien Spinoza, le spinozisme, est une philosophie du sujet, on va dire du sujet humain en général. C'est un humanisme, mais au sens le plus radical du terme. Cet humanisme est, on va dire, inspiré, car il va souvent affirmer la chose suivante, surtout vers la fin de l'éthique, que nous sommes Dieu. En même temps.
Nous sommes des parties de l'entendement infini de Dieu.
Nous sommes des parties de l'entendement infini de Dieu. Et l'entendement infini de Dieu, ça n'est rien d'autre. Je crois que c'est à la proposition 40 de l'éthique 5. L'entendement infini de Dieu, ça n'est rien d'autre que la somme des entendements finis humains. C'est-à-dire que Dieu, ce sont les hommes. Mais tout ce qui est décrit, la joie, la béatitude, est décrit avec une intensité telle qu'on est en effet dans un autre registre. On n'est pas dans un autre monde, on est dans notre monde, mais un autre registre. Et le génie de Spinoza a consisté, je crois, à nous indiquer qu'un autre registre est possible, un registre qui soit celui de l'intensité, de l'exaltation, de la grande joie, en même temps que de la sérénité. Alors, naturellement, tout cela est difficile d'accès. Il le dit, c'est sa dernière phrase, comme vous savez.
Ce qui est beau est difficile autant que rare.
Voilà. Bien sûr, voilà pourquoi il y a à suivre soigneusement, sérieusement, cet itinéraire qu'il nous propose.
Il ne faut pas seulement le suivre, je crois qu'il faut le reparcourir.
Il faut le reparcourir, mais naturellement, ce que j'ai voulu dire, le reparcourir...
C'est-à-dire emmener l'éthique en vacances.
Voilà, c'est ça, mais pas à la plage.
Pourquoi pas?
Parce qu'il faut pouvoir le lire tranquillement, sans être distrait, bien que, et vous avez raison de demander pourquoi, bien que Spinoza fasse l'éloge, à un certain moment... Je crois que c'est une plaisanterie de donner les citations, hein, je m'amuse. C'est Éthique 4:45. Voilà, c'est pas pour faire étalage de savoir, ça m'amuse moi-même. Ce texte dit ceci.
On est donc, pardon, dans la quatrième partie de
l'éthique,
qui est le moment où Spinoza traite de l'esclavage, c'est-à-dire de la soumission de l'homme aux passions.
Voilà, exactement. Et où il proteste, et dans le scoli de la proposition 45, il dit ceci, nul Dieu et nul autre qu'un envieux ne peut se réjouir de ma souffrance et de ma peine. C'est pourquoi il est bon de se réjouir. Il est bon d'avoir le goût des plantes, le goût des exercices physiques, et il décrit comme cela des objets de jouissance quotidienne. Et il dit, nul autre qu'un envieux ne peut se réjouir de mon humiliation, de ma souffrance, etc. Il proteste. Autrement dit, il sait que les œuvres d'art sont bonnes, que la consommation, les bons mets, il fait l'éloge, si vous voulez, de la jouissance quotidienne. Il n'est pas un hédoniste parce que il ne va pas s'arrêter là, mais il ne combat pas les plaisirs sous le prétexte qu'il serait une déféance du désir. Pas du tout. Les plaisirs sont bons s'ils sont connus, reconnus, adéquats à notre être, réellement enrichissants. Voilà pourquoi j'ai enchaîné là, lorsque vous parliez de la plage, Spinoza ne serait pas contre. Spinoza est favorable puisqu'il réhabilite le désir et la joie de vivre.
Il n'est pas contre la plage dans la mesure où on n'attrape pas un coup de soleil.
Très exactement.
Mais alors, pour Spinoza, évidemment, l'illumination n'est donc pas le coup de soleil, mais de façon générale d'ailleurs chez Spinoza, il y a un jeu sur le langage qui est très intéressant. On parlait de Dieu tout à l'heure, de l'entendement infini de Dieu. Le mot Dieu revient un nombre infini de fois. Dans l'éthique, Dieu, amour de Dieu, béatitude, salut, on a toute une terminologie sotériologique, si j'ose dire, c'est-à-dire on a vraiment tout le vocabulaire de la doctrine du salut, âme mise de côté, bon, exception faite du mot âme, mais sinon on a vraiment tout un vocabulaire qui est celui-là. À la fin de la troisième partie de l'éthique, où Spinoza s'attache donc à décrire les affections et les affects, ce qui n'est pas tout à fait pareil chez lui, à la fin de la troisième partie de l'éthique, à la vingtième définition, il écrit « Je sais que l'usage donne à ces mots un autre sens, mais mon dessein est d'expliquer non la signification des mots, mais la nature des choses, et il me suffit de désigner les passions de l'âme par des noms qui ne s'écartent pas complètement de la signification que l'usage leur a donnée, que le lecteur en soit averti une fois pour toutes. » Bon, donc à bon entendeur, ne vous méprenez pas sur le sens des mots que j'emploie, car je ne donne pas aux mots que j'emploie le sens que vous leur donnez ordinairement. Néanmoins, je m'en sers. Ce qui en filigrane sous-entend une critique du langage et de ce qu'il appelle les idées générales. Mais évidemment, parmi ces mots, il y en a un, le maître mot, auquel on est tenté de donner un sens et d'entendre quelque chose en écoutant ce mot, et auquel évidemment il donne un autre sens, qui est le mot Dieu. Dieu revient tout le temps. Il démontre l'existence de Dieu. Toute la première partie, De Deo, donc porte sur Dieu, à propos de Dieu. Alors, vous parliez tout à l'heure de Spinoza comme d'un penseur athée. J'ai juste envie de vous demander, alors, qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Où est Dieu chez Spinoza? Que devient Dieu?
Je vais essayer de vous répondre. Vous avez eu raison d'évoquer la 20e explication, la 20e définition des affects dans Éthique 3, avec la petite phrase « Je ne le dirai qu'une fois ». Spinoza explique ceci. J'étudie la nature des choses, je leur donne une définition, vous devez vous reporter à cette définition que je donne et non à une autre. Soyons-en avertis, soyons-en d'accord ensemble, une fois. Petite parenthèse, Léo Strauss, dans son livre sur le style de la persécution, note que, aussi bien chez Maïmonide que chez Spinoza, les affirmations les plus subversives sont souvent les affirmations qui ne sont prononcées qu'une seule fois, et que tout l'œuvre de Spinoza, un peu celle de Maïmonide, mais surtout celle de Spinoza, est une œuvre subversive qui renverse le sens des mots et qui emploie un langage autonome. Ce langage est autonome puisque, comme il le dit Spinoza, ne lisez mes concepts qu'avec mes définitions. On ne peut pas dire qu'il y a là un travail déloyal, comme lorsque on dit que Descartes s'avance masqué. Spinoza ne s'avance pas masqué puisqu'il donne les définitions.
Non, mais il est prudent quand même.
Mais il est prudent, comme vous savez, c'est son...
C'est sa devise,
chaoté.
Prenez garde.
Justement, voilà pourquoi il va prononcer le mot Dieu souvent. Il l'a dit d'ailleurs dans la note que vous avez évoquée. Je vais essayer d'employer les choses de la façon la plus proche du langage courant, mais pas complètement. Il faut vous référer à mes définitions. Alors, revenons-en à Dieu. Le Dieu tel que vous l'avez décrit là, à propos duquel vous avez posé des questions. Où est-il? Qu'est-il? Toutes ces questions...
C'est le Dieu personnel, en vérité.
C'est le Dieu personnel. Ce sont des questions qui répondent déjà à une réponse donnée à l'avance. Pour Spinoza, au contraire, Dieu n'est rien d'autre que tout ce qui précède l'arrivée du mot Dieu. Car il faut remarquer, on ne le remarque pas assez souvent, que le mot Dieu n'arrive qu'à la proposition
11.
11, j'allais dire, sauf erreur, mais dont vous confirmez. Ce qui veut dire que ce qui est important, c'est tout ce qui précède, et à la proposition 11, il va définir Dieu. C'est tout à fait considérable. Il définit Dieu. Qu'est-ce que Dieu? J'appelle Dieu. Elle commence comme ça, j'appelle Dieu. J'appelle Dieu une substance infinie comportant une infinité d'attributs infinis. Donc, ce Dieu, ça n'est rien d'autre que la substance. N'allons pas croire que c'est un personnage qui ressemblerait soit au Christ, soit à Moïse ou à Mahomet.
Mais la substance.
C'est alors, la substance.
Et la substance, c'est quoi?
La substance, c'est tout simplement le support logique de toute la réalité infinie du monde. La substance, c'est le monde en tant qu'il est autonome et qu'il ne peut s'expliquer que par lui-même. C'est le monde en tant qu'on le pose comme premier et comme autonome.
Est-ce que définir la substance par l'expression suivante vous convient? Est-ce qu'on peut dire de la substance, c'est le monde sans double?
Oui, 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 tout à fait. À condition de savoir que sous le mot « monde », on ne met pas seulement le monde que nous connaissons, c'est-à-dire la matière et l'esprit.
C'est ce monde, si vous voulez, pour lequel il n'y a pas de complément en miroir, en vérité.
Voilà. Voilà,
qui permettrait de le regarder, comme il y aurait la cité des hommes et la cité de Dieu, comme il y aurait l'ici-bas et l'au-delà. La substance, si j'ose dire, entre guillemets, transcende
cette grande
opposition, enveloppe.
Selon un terme très employé par Spinoza, elle enveloppe le tout de l'être.
Vous regrettez que je me sois laissé posséder par le prince des esprits du mal. Je vous en prie. Restez calme et revenez à vous-même. Quand vous possédiez encore tout votre esprit, vous adoriez, je crois, un Dieu infini par la vertu duquel toutes choses absolument viennent à l'être et s'y maintiennent. Et maintenant vous rêvez d'un prince ennemi de Dieu et qui, en dépit de Dieu, inspire et trompe la plupart des hommes, les bons sont rares en effet, et Dieu, pour cette raison, les livre à ce maître du crime pour qu'il subisse d'éternelles souffrances. La justice divine souffre donc bien que le diable trompe impunément les hommes, mais pas du tout que demeurent impunis ces êtres malencontreusement dupés et possédés par ce diable.
Merci Robert Misrahi. Nous voilà au tiers de cette conversation sur l'éthique de Spinoza. Rendez-vous dans 15 jours pour continuer cette lecture, cette promenade, et pour évoquer dans l'éthique les problèmes de l'erreur, de la liberté, du désir et de la mort. Mais tout de suite, la parole est à Emmanuel Laurentin pour la nouvelle fabrique de l'histoire.
Merci Raphaël, et dans une quinzaine donc avec vous pour ces vendredis de la philosophie.